Sur ce, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. C'est un chapitre qu'on ne lit pas souvent. On est surtout porté à aller à lire surtout chapitre 11, chapitre 12, les héros de la foi et tout ça. Mais le 10 nous amène à faire la différence entre les sacrifices de l'Ancien Testament et les sacrifices du Nouveau Testament. Et voici ce qui est écrit dans... Je ne lirai pas tout le chapitre parce qu'il est extrêmement long, mais simplement ce matin, lire les versets 5 à 7 et on citera d'autres versets. Alors, il est dit ici que c'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu ne prends plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors, j'ai dit, « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté, conformément à ce qui est écrit à mon sujet dans le livre de la loi. » Il dit, voilà, on va arrêter là pour tout de suite. Alors, que se passait-il au moment où Jésus était sur le point de naître sur la terre? Nous connaissons bien les anges, bien sûr les anges, les bergers, le décret de César Auguste, qui a conduit Marie et Joseph à Bethléem. Nous connaissons la crèche, les mages qui sont venus de l'Est, et l'étoile qui les a conduits vers l'enfant. Nous connaissons même aussi à travers les évangiles le plan diabolique d'Hérode pour faire mourir l'enfant Jésus. Mais voici une partie de Noël que nous ne connaissons pas, peut-être pas. C'est que pensait le Seigneur Jésus au moment où il devait naître? En fait, le titre de mon message, c'était la nuit avant Noël. Nous connaissons la version de Luc et de Matthieu, mais dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7 que nous venons de lire, nous pouvons lire l'histoire de Noël sur les lits et sur les lèvres de Jésus-Christ. Enfin, ce qu'il pensait la nuit avant de naître, il y a plus de 2000 ans. Je vous invite à garder vos yeux fixés sur Hébreux chapitre 10. On va regarder quelques passages, mais Hébreux chapitre 10 et versets 5 à 7 qu'on vient de lire, ce sont des paroles qui sont tirées du psaume 40, versets 6 à 8, et l'auteur l'applique directement à la venue de Christ. Si nous voulons savoir ce que le Christ pensait juste avant sa naissance, ces versets nous en donnent un aperçu. Et je vais le relire ici, je pense que c'est dans la Louis II. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu ne prends plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, « Me voici, ô Dieu. Je viens pour faire ce que tu veux, conformément à ce qu'il est écrit à mon sujet dans le livre de la loi. » Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, nous allons porter notre regard dans ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de vraiment diriger toutes choses. Te prions, Seigneur, que ton esprit puisse exprimer ce qu'elle a à dire à son Église ce matin. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Seigneur, tu sais si nous sommes dans la joie ce matin, si nous sommes préoccupés, si nous sommes tristes. Seigneur, ta parole a une réponse pour chaque cas, chaque situation. Ce que nous voulons surtout, Seigneur, c'est de sortir de ce lieu en ayant la certitude, que nous avons entendu ta parole, mais que nous avons aussi décidé de la mettre en pratique. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Qu'est-ce que ces versets font ressortir concernant le Seigneur Jésus? Eh bien, ces versets soulignent dans un premier temps que l'existence de notre Seigneur n'a pas commencé à Bethléem. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans certaines églises aujourd'hui, niant plus ou moins la Trinité. Il y a des gens qui disent que Jésus n'existait pas avant de venir au monde à Noël. Mais les textes bibliques sont clairs. Le verset 5, entre autres, souligne que se fait lorsque l'auteur attribue ses paroles à Christ, c'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde. Alors, avant d'entrer dans le monde, Jésus s'exprime, donc il existait. Il est là depuis toujours. On va citer Jean 1 tantôt, ainsi de suite. Mais c'est important qu'on ait cette certitude que cette triunité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont existé depuis toute éternité. Vous dites amen à ça? Ça, c'est vraiment un fait. Ces versets soulignent dans un deuxième temps la préexistence de Christ au ciel. J'ai entendu un prédicateur expliquer cette grande vérité en parlant des conseils de l'éternité. Il entendait par là l'accord divin entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit selon lequel le Fils deviendrait un être humain et s'offrirait comme sauveur. Le Seigneur Jésus n'a pas commencé à exister à Bethléem. En tant que deuxième personne de la Trinité, il n'a jamais eu de commencement. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il déclara « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et ça, c'est important. C'est un texte qui est malheureusement que, bon, on peut le dire ici ce matin, que les témoins de Jéhovah ont falsifié la parole de Dieu. Dans leur Bible, pour éviter que Jésus, qu'on puisse faire le lien que Jésus est Dieu, eh bien, ils ont écrit « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». C'est pour éviter que le « je suis » qui est dans l'Évangile de Jean fasse référence dans Exode, où lorsque Moïse dit à Dieu « Oui, mais ils vont me demander qui m'envoie, et que vais-je répondre? » Tu leur diras « Je suis m'envoyé ». Et quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 58 et le 59 tout de suite après, eh bien, il faut se poser la question, pourquoi les Juifs, à partir de cette réponse de Jésus, « Avant qu'Abraham fût, je suis », ont voulu le lapider sur cette phrase-là? C'est parce que là, ils comprenaient que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Ils proclamaient que celui qui avait parlé à Moïse dans l'Ancien Testament, c'était lui, en fait. Et c'est pour ça que les Juifs ont voulu le lapider. Mais Jésus, c'est Dieu fait homme. Et ça, on le sait, hein, c'est une doctrine fondamentale pour le véritable christianisme. Et avant qu'Abraham fût, je suis. Quelqu'un m'a récemment demandé pourquoi nous avons une description de la naissance du Christ uniquement dans Matthieu et dans Luc, mais pas dans Marc et dans Jean. C'est simplement parce que les deux autres évangiles n'ont pas le même but. La réponse se trouve dans ce qui a poussé Marc et Luc à écrire chacun leur évangile. Marc veut mettre l'emphase sur Christ comme étant le grand serviteur qui est venu donner sa vie pour les autres. Dans ce contexte, peu importe d'où vient le serviteur, ce qui importe, c'est de savoir seulement qui l'a envoyé et comment il sert les autres. Et en revanche, l'Évangile de Jean remonte au commencement, c'est-à-dire au-delà de Bethléem. Il commence en soulignant la préexistence éternelle de Jésus en tant que vraie parole de Dieu. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Maintenant, voici, j'en parle souvent, je vous dis que c'est important de méditer les Écritures, d'apprendre des versets par cœur. Ça, c'est le verset qui m'empêchait de tomber lorsque les témoins de Jéhovah m'ont pris deux, alors que j'étais jeune chrétien, et qui m'ont donné leur charabia et pour me faire croire que Jésus était uniquement le Fils de Dieu et non pas Dieu. C'est ça la doctrine des témoins de Jéhovah. Jésus, c'est le chef des anges, et c'est le petit Dieu, et Dieu est le grand Dieu, quoi. J'avais été perturbé, le soir, en allant me coucher, eh bien, je me suis mis au pied de mon lit, et j'ai crié au Seigneur qui me donne une réponse, qui m'éclaire vraiment, parce que j'étais ébranlé. Et finalement, bien, parce que j'avais appris par cœur ce verset-là, le Saint-Esprit m'a donné la réponse, et par la suite, j'étais ébranlable concernant la divinité de Jésus. Et c'est vraiment, vraiment important, parce que par nos propres moyens, quand on rencontre ces gens qui sont endoctrinés, il nous est très difficile, si on n'est pas entraîné à méditer les Écritures ou à connaître des versets par cœur, il nous sera très difficile de lutter seul contre eux. Et quand on a médité les Écritures, eh bien, c'est pas nous qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers nous, à travers ce qu'on a médité, à travers ce qu'il nous a enseigné. Il y a beaucoup de mystères dans tout cela, mais souvenons-nous d'un fait important. Noël souligne la naissance du Seigneur Jésus en tant qu'homme, mais ne souligne pas le début de son existence. En tant que Fils de Dieu, il existait avec le Père bien avant d'être conçu dans le ventre de Marie. Noël, c'est la période de l'année où il nous est rappelé qu'en raison de l'amour que Dieu avait pour nous, il a envoyé son Fils unique dans ce monde. Et nous savons qu'il l'a fait. Nous connaissons l'histoire de la première venue de Christ et des événements qui ont entouré cette naissance spéciale. Et j'aimerais ce matin que nous réfléchissions aux différentes raisons pour lesquelles il est venu. Bon, il y en a une que je ne citerai pas. Je ne peux pas citer toutes les raisons, on n'aura pas le temps. Mais je ne dirai pas ce matin qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Je vais en citer cinq. Alors, la première, c'est pour prendre sur lui nos péchés. Pour prendre sur lui nos péchés. 1 Jean chapitre 3, verset 5 nous dit « Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il n'y a point de péché en lui. Chaque homme, chaque femme et enfant né sur cette terre a un problème avec le péché. C'est un problème que nous sommes incapables de régler par nous-mêmes, mais Dieu a pris soin de notre problème en envoyant son Fils dans le monde et en l'offrant sacrifice pour notre péché. Si la conséquence du péché, c'est la mort, dit Paul, Dieu a voulu nous accorder la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend justes à ses yeux. S'il est venu pour prendre sur lui nos péchés, il est aussi venu, deuxièmement, pour remplacer le système de sacrifice juif qui avait échoué. Et Hébreux chapitre 4, chapitre 5, si vous voulez regarder chapitre 4. Et pourquoi le système de sacrifice juif ne menait nulle part? Mais ces sacrifices, parce que ces sacrifices ne rendaient personne parfait. Ils ne servaient qu'à rappeler aux gens leurs péchés année après année. Car le sang des taureaux et des boucs, c'est ce qu'il dit dans le verset 4, l'auteur ici, car le sang des boucs et des taureaux ne pouvait jamais enlever les péchés. C'est ce que dit explicitement Hébreux 10, 5, tu ne veux ni sacrifice ni offrande. C'est ce qu'ont fait les prêtres parce qu'ils croyaient sincèrement que c'est ce que Dieu voulait d'eux. Ils ne se sont pas trompés dans ce qu'ils ont fait, mais ils n'avaient pas compris la vérité qui se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 4, car le sang des boucs et des taureaux ne pourra jamais enlever les péchés. Et les sacrifices, quand on disait que les sacrifices étaient faits par la foi dans l'Ancien Testament, c'était par la foi dans le sacrifice que le Messie à venir accomplirait et qui effacerait les péchés. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice ne faisait que couvrir les péchés. C'est pour ça qu'on le refaisait chaque année. Et tandis qu'avec le Seigneur Jésus, bien, quand Jean-Baptiste verra Jésus arriver, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. » Regardez au verset 11. Et vous comprendrez la futilité de l'ancien système. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Voilà pourquoi je dis couvrir les péchés dans l'Ancien Testament. Et quand je dis qu'à chaque année on faisait des sacrifices, eh bien ça rappelait à la personne qu'elle était pécheur. Les sacrifices étaient là pour ça. Paul dit dans Romains, hein? La loi était donnée simplement pour amener les gens à réaliser qu'ils étaient des pécheurs. Mais ne jamais à effacer leurs péchés. Alors, il dit ici, tout prêtre se tient de chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Et au cours de toutes ces années écoulées, depuis l'époque de Moïse jusqu'à l'époque de Christ, des dizaines de milliers d'agneaux, de boucs et de taureaux ont été offerts sur l'autel en offrande à Dieu pour permettre l'expiation des péchés du peuple. C'est ce qu'il veut dire quand il dit au verset 11 que tout prêtre se tenait chaque jour pour offrir les mêmes sacrifices. Alors, pourquoi Dieu a-t-il exigé des sacrifices dans l'Ancien Testament? Pourquoi Dieu a-t-il exigé des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament? Dieu a exigé des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament pour le pardon temporaire des péchés, et ces sacrifices annonçaient le sacrifice complet et parfait de la personne de Jésus-Christ. Les sacrifices d'animaux est un thème important dans les Écritures, car s'il n'y a pas de sang versé, il est impossible de recevoir le pardon. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué des animaux pour les vêtir. Quand Caïn et Abel ont offert des sacrifices à Dieu, celui de Caïn fut rejeté par Dieu parce qu'il avait offert une offrande provenant des produits de la terre, tandis que celui d'Abel a été accepté parce qu'il y avait une offrande des premiers-nés de son troupeau. Après le déluge, Noé a offert des sacrifices, des animaux en sacrifice à Dieu. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament annonçaient à l'avance le sacrifice que Christ accomplirait en notre faveur. Les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas procurer le pardon des péchés, ne pouvaient procurer le pardon des péchés que grâce au sacrifice à venir de Christ pour nos péchés. Et il ne faisait qu'annoncer ou préfigurer finalement le sacrifice de celui qui est l'agneau de Dieu. Jésus est donc venu accomplir ce que les sacrifices d'animaux ne pourraient jamais faire. Il est venu régler le problème de notre péché une fois pour toutes. Et nous pouvons voir cela dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit « Tu m'as formé un corps ». Dans un premier temps, cela signifie que la naissance de Jésus-Christ n'est pas une décision qui est venue s'ajouter coup après coup dans le plan de Dieu suite à la chute, mais qu'elle est plutôt l'accomplissement de toutes les promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament. Dans un deuxième temps, c'est ce qui compte le plus, cela signifie que son corps a été préparé pour lui, de sorte que des années plus tard, il puisse offrir lui-même en sacrifice une fois pour toutes le péché, pour nos péchés, pour les péchés du monde sur la croix. Et tout comme dans l'Ancien Testament, un agneau était sacrifié pour couvrir les péchés du peuple, Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est apparu pour prendre sur lui nos péchés, il est apparu pour remplacer le système de sacrifice des Juifs qui avaient échoué. Et troisièmement, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et moi, je pense qu'on va juste arrêter un petit peu là-dessus. Je pense que c'est très important d'en parler. 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est dit, « Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. » Suite, Satan est à l'origine du péché, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour neutraliser la puissance que le péché exerce dans nos vies. Je vous invite à tourner dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3. Pourquoi on dit que Jésus a remporté la victoire sur le diable? Il a remporté non seulement la victoire sur le diable à la croix, mais il a remporté aussi la victoire sur le diable pendant tout son ministère. Il n'a jamais commis de péché. C'est le premier qui réussissait à tenir tête au diable. C'est important de saisir cette vérité-là. Ça veut dire que s'il n'a jamais commis de péché tout le temps qu'il était sur la terre à travers son ministère, la mort n'avait aucune puissance sur lui. Le péché est entré dans le monde, nous dit la parole, et la mort est la conséquence du péché. Nous sommes tous, nous venons au monde avec le péché qui habite en nous, nous péchons tous, et la mort, est la conséquence de notre péché. Mais Jésus, en n'ayant jamais péché, il venait de remporter une victoire importante sur celui qui était l'auteur du péché, qui avait la puissance sur le péché. Voilà pourquoi, déjà, c'est une première victoire pour Jésus. Il était capable de dire au diable, écoute, tu n'as aucune puissance, la mort ne peut pas m'affecter, tu ne peux m'atteindre avec la mort, puisque je n'ai jamais péché. Et la deuxième victoire, c'est sur la croix. Jésus a remporté la victoire sur le diable tout au long de son ministère terrestre en résistant à toutes les formes de tentations possibles et il n'a jamais péché. Par trois fois, Jésus va repousser ses sollicitations en utilisant simplement la parole de Dieu. Et encore une fois, je le rappelle, l'importance de méditer les Écritures. Méditer les Écritures et de prier. Jésus a dit « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Priez. Comment je ne peux pas tomber dans la tentation? Bien, c'est par la prière. Priez. Priez, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Son jugement, le jugement du diable est complet, définitif. Même s'il n'a pas encore exécuté, désormais, celui qui vit par la foi le considère comme étant un ennemi vaincu. Et frères et sœurs, le diable, à travers ce que Jésus a accompli sur la croix, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous, sur vous. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui qu'on lui donne. C'est celui qu'on lui donne, frères et sœurs. Très peu de temps avant d'être arrêté par les Juifs et condamné à la crucifixion, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le chef de ce monde va être chassé, jeté dehors, dans l'Évangile de Jean. Le monde a été jugé, frères et sœurs, avec son chef à la croix. S'il n'y a plus d'espoir pour le monde qu'à rejeter la grâce de Dieu, à travers la venue du Fils de Dieu, il y a toujours de l'espoir pour les hommes de ce monde s'ils reçoivent le Seigneur Jésus. Car le Christ, et ça c'est la parole de Paul, car le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde présent et mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. » Frères et sœurs, Satan est un ennemi qui a été vaincu à la croix. Il a été vaincu lorsque Jésus a prononcé ces paroles, « Tout est accompli ». Nous savons que Jésus reviendra un jour et jettera Satan dans l'étang de feu et on en aura fini avec lui pour toujours. Pour l'instant, Satan est comme un lion rugissant, nous dit l'apôtre Pierre, mais il ne fera pas le poids face au lion de la tribu de Juda. Et regardez ce que Jean dit dans le chapitre 3, verset 4. « Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. » Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés. Il n'y a point de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure en lui cesse le péché. Là, c'est pas moi qui le dis. Hein. On peut rajouter à côté « cesse de pratiquer le péché », mais c'est pas ce qui est écrit. Hein. Cesse de péché. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance que le diable exerçait dans nos vies. Il nous a délivrés de la puissance que le péché exerçait dans nos vies. Il nous a délivrés de la puissance que le monde exerçait dans nos vies. Maintenant, il donne la raison. Comment on peut faire pour vivre une vie comme celle de Jésus? Regardez, il le dit. Quiconque demeure en lui, quiconque demeure uni en lui, c'est la seule condition. Le problème, c'est qu'on ne désire pas toujours demeurer uni en lui. On ne désire pas renoncer à tout. Comme Jésus a dit, celui qui veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Qu'il sait qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses ambitions personnelles, qu'il renonce aux ambitions de sa chair. Il en a la capacité puisqu'il a mon esprit qui habite en lui. Regardez ce qu'il dit. On va lire un peu. Hein? Le Fils de Dieu est apparu... J'étais rendu où? 5. Ainsi, quiconque demeure uni en lui cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Mes enfants, ne vous laissez tromper par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie qui vient de Dieu est en lui, et c'est le Saint-Esprit de Dieu. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Puisqu'il ne fait plus partie du monde, il fait partie de la famille de Dieu. Moi, je dis rien, hein? Je lis, là. Je fais juste lire. Je n'essaie même pas d'interpréter, je fais juste lire ce qui est... Je trouve que c'est aussi simple pour un enfant. Hein? Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'est pas enfant de Dieu. Et là, à partir du verset 11, il va parler de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Verset 16, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, pour nos frères. C'est un signe de la nouvelle naissance. On n'est pas là pour être servi. On n'est pas sauvé pour être servi. On est sauvé pour servir. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il a de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes enfants, il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. Ce doit être un véritable amour qui se manifeste par des actes. Quand quelqu'un dit « Mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime », et que tout va bien, c'est facile à dire. Mais comment mon frère et ma soeur vont montrer qu'ils m'aiment vraiment, non pas simplement de la bouche? C'est quand je serai en difficulté, c'est quand je serai malade, c'est quand j'aurai besoin de quelqu'un. Là, ils vont montrer, dans la pratique, qu'ils m'aiment. C'est ce que Jésus a fait. Si Jésus s'était simplement contenté de prêcher qu'il nous aimait, et qu'il aurait fait tout le contraire en pratique, il n'y aurait pas de christianisme aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, non seulement nous a dit qu'il nous aimait, mais il nous a montré jusqu'à quel point il nous aimait. Il était capable de nous enseigner « aimer vos ennemis » parce que lui-même nous a aimés. La parole est claire, alors que nous étions encore ennemis de Christ, de Dieu, Christ est mort pour nous. Et la chair, la nature humaine est incapable d'aimer son ennemi. La nature humaine est incapable d'aimer les gens qui vous font du mal. La nature humaine, tout ce qu'elle cherche est vengeance, vengeance, venge-toi. La nature humaine n'est pas capable de supporter la souffrance, n'est pas capable de supporter la persécution. Il faut naître de nouveau pour être capable d'aimer nos ennemis. Et je l'ai déjà prêché ici, le christianisme, le vrai christianisme, c'est la seule croyance qui prêche d'aimer nos ennemis. Toutes les autres religions nous disent d'aimer nos amis. Toutes les autres religions nous disent de faire du bien autour de nous. Mais la seule qui a pu proclamer d'aimer nos ennemis et qui le fait jusqu'à la croix, en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est Jésus-Christ. Voilà la crédibilité du Fils de Dieu. Et frères et sœurs, ce Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme. Et depuis toute éternité, il vous aime, il m'aime. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Je ne suis pas en train de vous parler d'une religion qui a été inventée par les hommes. Je suis en train de vous parler d'un Dieu d'amour qui, depuis toute éternité, avait préparé un plan pour racheter nos péchés, un plan pour nous amener à devenir semblables à lui après la nouvelle naissance. Et c'est ce qu'il dit ici. Hein? C'est ce qu'il dit, regardez, verset 2, le chapitre 3, verset 2. « Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir semblable à Jésus-Christ le temps qu'on est sur la terre. Quand il dit ici parfaitement, ça veut dire qu'on va recevoir notre corps glorifié et on sera parfaitement semblable à lui. Ce qui nous manque, on a été racheté de nos péchés, mais on n'a pas encore été racheté de notre corps. On a un corps mortel, notre corps, on n'a pas encore notre corps éternel. Frères et sœurs, si le Seigneur, on va célébrer la naissance du Seigneur dans quelques jours, je peux vous dire une chose, on risque aussi peut-être de célébrer la naissance et le retour de Jésus-Christ avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Et je ne veux pas vous dire si c'est avant, pendant ou après les tribulations. La seule chose, quand j'enseigne là-dessus, je dis simplement ceci, soyez prêts. C'est ce que le Seigneur nous a dit, soyez prêts quand je vais revenir. Soyez prêts. Ouais. Alors, on va arrêter pour l'épître de Jean. C'était pour vous parler de la délivrance. On est délivré. Le problème, c'est que d'abord, c'est le juste vivre par la foi, c'est une question de foi. Est-ce qu'on croit sincèrement qu'on a tous les outils, qu'on a tous les éléments en nous pour produire la vie de Jésus-Christ? Bien sûr. Bien sûr. Sinon, il n'y a pas de différence entre notre croyance et celle des autres. Quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de témoigner en avant, écoutez, j'étais comme ça avant, puis maintenant, voici comment je suis devenu. Maintenant, je ne suis pas devenu comme ça par mes propres forces. C'est grâce à l'Esprit qui habite en moi, grâce au Seigneur Jésus-Christ que j'ai rencontré, que j'ai reçu. S'il n'y a pas de différence avec l'ancienne vie, bien, on va finir par, vous savez, on va finir par regretter notre ancienne vie s'il n'y a pas de différence entre l'ancienne et la nouvelle. Hein? Parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup qui sont nés dans l'Église. Moi, je viens du monde. J'avais beaucoup plus de plaisir dans le monde que dans l'Église. Hein? J'avais beaucoup moins de persécution dans le monde que dans l'Église. Hein? J'avais pas de compte à rendre à personne dans le monde. J'en ai dans la rencontre dans l'Église. Hein? Mais Dieu a fait un miracle dans ma vie. L'ancien Jacques Hudon, il est mort. Et le nouvel Jacques Hudon, vous l'avez devant vous. Et je le répète souvent, vous êtes mieux de ne pas avoir connu l'ancien. Ouais. Dieu a fait un miracle dans ma vie, voilà. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Il doit avoir eu un changement. C'est pas juste une opération dans le cœur, c'est un cœur nouveau. Mon cœur de pierre, Dieu l'a enlevé pour me donner un cœur de chair. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est une doctrine fondamentale dans nos églises qu'on doit prêcher, qu'on a oublié, qu'on a abandonné. Je vais vous dire pourquoi elle est fondamentale. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment on est de nouveau? Et là, Jésus utilise le serpent sur un poteau d'airain dans le désert pour faire comprendre en toute simplicité qu'est-ce que c'est, que ça commence là, la nouvelle naissance. Et celui qu'on va célébrer dans 2 jours, eh bien, il est là pour nous rappeler ça aussi. Que s'il fallait qu'il retienne simplement le mal qu'on a fait, il ne serait jamais venu. Parce qu'il a été maudit à notre place. Il a subi l'enfer à notre place, sur la croix. Et il n'avait point péché. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu merveilleux. On a parlé tantôt, on a prié que Dieu était grand. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu grand. On pourrait aussi prier, merci Seigneur pour ta grande patience envers tes enfants. Merci pour ta grande patience, Seigneur, envers ton Église. C'est des bonnes questions que notre frère a posées tantôt. Qu'est-ce qu'on a accompli en 2018? Moi, je ne dirais pas qu'est-ce qu'on a accompli en 2018. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli par son Esprit en 2018 en nous? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a stagné ou si on a reculé? Est-ce qu'on a commencé l'année 2018? Il était le premier dans notre vie. Est-ce qu'il est toujours le premier dans notre vie, frères et sœurs? Parce qu'il est venu aussi mourir sur la croix pour ça, hein? Pour être le premier dans votre vie, dans ma vie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelle liberté! La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. La vérité, elle se trouve dans la parole. Il est apparu pour prendre sur lui nos péchés. Il est apparu pour remplacer l'ancien système des sacrifices des Juifs qui avait échoué. Et s'il est apparu pour détruire les œuvres du diable, il est aussi apparu pour faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 6, verset 38, Jésus dit, « Je suis descendu du ciel, je suis venu vers vous pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé et non pas ma volonté. » Lorsque Christ est venu dans le monde, il connaissait déjà la raison de sa venue depuis tout le début, ce que nous pouvons dire d'aucun autre bébé. Lorsque je pense à mes petits-enfants, je me demande ce que l'avenir leur réserve. Quand je prie pour eux, je demande à Dieu de les sauver, de les protéger, de les faire grandir dans son amour et dans leur service pour lui. Je ne connais pas le plan que Dieu a pour chacun de mes enfants, mais je sais que chacun d'eux occupe une place dans le plan de Dieu, sans savoir comment Dieu s'y prendra pour accomplir ce plan qu'il a prévu pour eux dans les années à venir. Et il est peu probable, frères et sœurs, que je vive suffisamment longtemps pour voir tout ce que Dieu leur réserve. C'est pour cette raison que je prie pour eux sur la base des promesses de Dieu, tout en lui laissant le soin de gérer tous les petits détails de ce plan. Si nos enfants ne connaissent pas exactement ce qui les attend dans ce monde, Christ, lui, connaissait ce qu'il attendait dès le début, et il est apparu pour faire la volonté de Dieu. Les parents font souvent des projets pour leurs enfants, Un fermier peut espérer que ses fils reprendront sa ferme un jour, et un propriétaire d'entreprise peut rêver que ses fils et ses filles le rejoindront dans son entreprise dès qu'il sera adulte. Très souvent, les parents espèrent que leurs enfants fréquenteront le collège où ils ont fait leurs études et qu'ils suivront leurs traces. Ces attentes, bien que louables et compréhensibles, ne sont rien d'autre que celles qui proviennent de parents qui souhaitent que de bonnes choses pour leurs enfants. Mais parfois, ces désirs ne se réalisent pas, frères et sœurs, parce que les enfants veulent tracer souvent leur propre chemin. Ils choisissent un autre collège, ils choisissent une carrière différente de celle de leur père, et il arrive qu'ils ne sont même pas intéressés à prendre les rênes de l'entreprise familiale. Christ n'était pas du tout comme ça. En tant qu'enfant, il était venu pour un seul but et il s'y est appliqué. Ce n'est pas comme si le Père avait dû le forcer à venir sur la terre en lui disant « Je veux maintenant que tu descendes là-bas, que tu naisses d'une vierge, que tu sois nourri dans une mangeoire, que tu sois oublié du monde, en sachant que le roi Hérode va essayer de te tuer, que tu devras fuir tes parents avec tes parents en Égypte, que tu devras grandir à Nazareth, une ville insignifiante, que tu seras rejeté par ton propre peuple, que tu seras haï, que tu seras rejeté, flagellé puis crucifié. » Le Fils savait tout cela avant sa naissance, frères et sœurs, et pourtant, il est quand même venu. Gloire à Dieu. Il est apparu pour faire la volonté de Dieu, sachant que cela signifierait sa propre mort sanglante sur la croix. Et il est quand même venu. Christ est apparu sur la terre dans un but bien précis, faire la volonté de son Père et non pas faire notre volonté. Et lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, eh bien, il y a un moment donné, quand il dit « renoncer à vous-même », ça veut dire « maintenant, c'est terminé, je ne fais plus ma volonté, mais je cherche à faire la volonté du Père, parce que je suis son enfant. » Christ est apparu sur la terre dans un but bien précis, je le répète, faire la volonté de Dieu, et il accomplit sa volonté quand il est mort sur la croix en portant les péchés du monde. C'est la signification ultime de la proclamation que les anges ont faite au berger dans Luc chapitre 2, verset 11, « Cette nuit dans la ville de David ». Est né votre Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Christ est venu pour mourir. Rien d'autre n'explique sa naissance. Il a parfaitement accompli la volonté de Dieu quand personne d'autre ne pouvait le faire. En tant qu'homme, il est mort. En tant que Dieu, il a porté le péché du monde. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que Jésus a fait parce que personne d'autre n'était qualifié pour le faire. Voilà ce qui était dans son esprit la nuit précédente à Noël, une dette énorme qu'il pouvait lui seul payer. Permettez-moi de vous raconter une histoire concernant le tsar Nicolas Ier de Russie. Il semblerait que le tsar, comment vous dites, le tsar ici ou le tsar? Le tsar? Ben, vous savez de qui je parle, hein, bon. C'est bon. Alors, il semblerait que le tsar avait un bon ami qui lui avait demandé un jour de fournir un travail à son fils. Le tsar répondit favorablement à la demande de son bon ami, et nomma le fils de son ami en tant que trésorier dans une caserne de l'armée russe. Cependant, il s'est avéré que le fils était moralement faible et qu'il a rapidement perdu au jeu presque tout l'argent qui lui avait été confié. Lorsqu'il apprit que des auditeurs allaient examiner ses livres, le jeune homme sombra dans un profond désespoir, sachant qu'il était certain d'être découvert. Il calculait le montant qu'il devait et le montant total de cette dette était énorme, bien au-delà de ce qu'il pouvait jamais payer, de ce qu'il pourrait jamais payer. Il décida donc que la nuit précédant l'arrivée des auditeurs, il prendrait son arme et se suiciderait à minuit pile. Avant de se coucher, il écrivit des aveux complets, énumérant tout ce qu'il avait vu, il avait volé. Il termina en écrivant ces mots, « Une dette énorme, qui peut la payer? » Puis il s'endormit, fatigué et épuisé de tous les efforts qu'il avait faits pour trouver un moyen de régler cette dette. Comme il lui arrivait à l'occasion, tard dans la nuit, dans la soirée, le tsar effectua une visite surprise à la caserne. Voyant la lumière allumée dans une chambre, il jeta un coup d'œil dans la pièce et trouva le jeune homme endormi avec la lettre de confession à côté de lui. Il lut la lettre et comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il s'arrêta un instant, réfléchissant à la peine que le jeune homme méritait pour un délit aussi grave, puis se pencha, écrivit un mot sur le papier et partit. Quelques heures plus tard, le jeune homme se réveilla, réalisant qu'il avait dormi après minuit. Prenant son arme, il s'apprêtait à se tuer lorsqu'il aperçut que quelqu'un avait écrit quelque chose sur le grand livre comptable, juste sous ses propres mots, une dette énorme qui peut payer. Il y avait un mot, Nicolas. Il était abasourdi, mais terrifié à l'idée que le tsar savait ce qu'il avait fait. En vérifiant ses archives, il trouva que la signature était authentique. Finalement, se ressaisissant, il comprit que le tsar connaissait toute l'histoire et était prêt à payer lui-même la dette. S'appuyant sur les paroles de son commandant en chef, il s'endormit. Au matin, un messager arriva du palais avec le montant exact que le jeune homme devait. Seul le tsar pouvait payer cette énorme dette, et le tsar a payé. Seul Jésus pouvait payer notre dette envers Dieu, et cela seul explique pourquoi celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il a vécu avec nous pendant 33 ans pour pouvoir payer de son sang la dette que nous avions à payer à cause de notre péché. Nous sommes aujourd'hui exactement là où ce jeune homme se trouvait, quand nous regardons nos péchés, que nous réalisons, la condition désespérée dans laquelle nous nous trouvons, nous disons, une grande dette, qui peut la payer? Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ s'avance, il signe dans notre grand livre, il signe Jésus-Christ. Seul Jésus pouvait payer notre dette et il l'a fait. Quel grand Dieu nous avons! Quel grand Dieu nous avons! C'est pourquoi il est venu. C'est là le vrai sens de Noël. Lorsque Noël arrive, les familles se rassemblent pour ouvrir leurs cadeaux. Dieu a un cadeau de Noël pour nous. Non pas un cadeau enveloppé dans du papier luisant et entouré de rubans fantaisie, mais enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. C'est le cadeau de son Fils. C'est pour vous, c'est pour moi. Le cadeau est toujours là, frères et sœurs. Il doit être reçu personnellement. Vous ne pouvez jamais profiter vraiment de Noël jusqu'à ce que vous puissiez regarder le Père dans les yeux et lui dire que vous avez reçu son cadeau de Noël. L'avez-vous reçu? L'avez-vous tous reçu, vous qui êtes dans cette salle ce matin? Il n'y a pas de décision plus importante dans votre vie. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. C'est une décision personnelle. Si vous n'êtes pas prêt, rien de ce que je dis ne peut vous obliger à venir à Christ. Mais si vous êtes prêt, alors il est temps que vous régliez vos comptes avec le Seigneur. Il est écrit qu'il a donné le droit de devenir enfant de Dieu à ceux qui ont cru en lui. Avez-vous déjà reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur? Aimeriez-vous le faire maintenant? Si oui, j'invite simplement à courber la tête. Je ne ferai pas d'appel, c'est simplement un appel du cœur. Fermez les yeux, courbez la tête. Je vous invite simplement, si vous voulez, vous désirez faire cette prière, eh bien, je vais l'exprimer tout simplement et vous la faites dans votre cœur. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je confesse que j'ai péché plusieurs fois en parole et en action. Ici, dans ce lieu, ce matin, je confesse mes péchés et demande à Jésus-Christ d'être mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. De tout mon cœur, je veux faire confiance uniquement à Jésus pour mon salut. Seigneur, pardonne mes péchés et sauve-moi. Seigneur, merci de m'avoir tant aimé, d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur, pour me laver, me purifier de mes péchés. Viens dans mon cœur, Jésus. Viens dans mon cœur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je demande ces choses en ton nom. Amen.